Voilà, bonsoir à tous. Je suis heureuse que la pluie ne vous ait pas arrêté et que vous soyez nombreux pour écouter cette conférence de M. Beignet qui nous fait l'honneur de venir au Centre Sèvres. Il est déjà venu, je crois, d'ailleurs, en tout cas dans d'autres contextes, au moins dans le séminaire neurosciences, je suppose, et liberté. Donc, professeur émérite de Paris-Sorbonne, Jean-Michel Beignet est aujourd'hui au CNRS, où il anime une équipe de recherche. Ses recherches actuelles, mais vous les connaissez sans doute bien certains d'entre vous, portent principalement sur l'impact philosophique et éthique des sciences et des techniques sur les représentations et les imaginaires individuels et collectifs. Alors, la liste de sa bibliographie est très impressionnante, et donc je me permettrai de faire une petite sélection en fonction de notre soirée. Mais en tout cas, elle révèle très bien la multiplicité de vos intérêts et la largeur de votre culture philosophique. Je retiendrai notamment dans des ouvrages, parmi les ouvrages récents, en 2009, « Demain, les postes humains », que certains ont sans doute lu, « Le futur a-t-il encore besoin de nous ?» ou encore, donc c'est un petit peu après, en 2012, « L'homme simplifié », « Le syndrome de la touche étoile ». Mais, donc il y a aussi, mais là j'avoue que nous ne l'avons pas encore dans la bibliothèque apparemment, mais peut-être que François l'a, je ne sais, « Les robots font-ils l'amour ?»« Le transhumanisme en 12 questions ?» et donc que vous avez publié avec Laurent Alexandre. Bon, dans toutes ces différentes recherches, il me semble que votre attention, c'est, enfin vous mettez en garde malgré tout sur les dérives pour l'humanisme de ce qu'on imagine peut-être trop facilement un progrès scientifique, et non seulement scientifique, mais éventuellement nous conduisant à des améliorations substantielles de l'espèce humaine. Et vous montrez bien, notamment, je pense que les questions que vous posez, notamment dans votre dernier livre, montrent bien la question fondamentale que pose notamment le transhumanisme. Est-ce que la technique peut, et même est-ce qu'elle doit, améliorer l'espèce humaine? Et alors, ce soir, il me semble que vous avez choisi une question plus précise, mais fort intéressante, surtout pour moi qui suis patristicienne et qui donc m'intéresse beaucoup à la gnose. Donc vous avez choisi d'intituler votre conférence ce soir « Le transhumanisme, le symbolique et la gnose ». Je pense que vous savez comment dans l'Antiquité, la gnose c'était l'espoir du salut par la connaissance. Et c'est intéressant de reprendre ce concept sans doute pour voir les limites ou les questions que pose le transhumanisme. En tout cas, je vous en remercie par avance.
Merci beaucoup, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Isabelle Bauchet. Et là, vous êtes en train de m'impressionner beaucoup en me disant que vous êtes spécialiste de la gnose, parce que moi, je ne le suis pas. J'ai découvert, effectivement, la gnose au détour de mes réflexions, pérégrinations au sein du transhumanisme. Donc, ce dont je vais faire état, c'est vraiment d'une culture en voie de constitution. Je prends le risque de télescoper peut-être un courant qui peut apparaître comme brutal, cynique, sans culture, etc., le transhumanisme, et donc la gnose qui, elle, bénéficie de la notabilité académique et de la respectabilité, en tout cas scientifique. Mais bon, c'est un risque que je prendrai et que je justifierai, si vous voulez. Alors, bon, je commencerai par une banalité. Je crois que les technologies changent notre rapport au monde. C'est d'ailleurs le titre d'un papier que François Heuvé avait eu la gentillesse de publier dans Études, sous ce titre-là, les technologies changent notre rapport au monde. Donc oui, une banalité, mais qui prend peut-être aujourd'hui un certain relief. Il me semble que nous sommes convaincu que décidément la technologie n'est pas anodine, que notre vie quotidienne est de part en part criblée par elle. Hein, mais c'est peut-être pas suffisant de dire que c'est simplement notre quotidienneté ou notre vie pratique qui est impactée par les technologies. Je crois aussi qu'il faut aller plus loin et que ce sont aussi nos manières de penser, nos manières de nous représenter notre condition humaine qui se trouve transformée du fait de la prolifération des machines, des automatismes que nous mettons en place. Et en ce sens, c'est par là que vous comprendrez peut-être l'orientation que je vais donner à cet exposé, eh bien en ce sens, je crois que les technologies relèvent, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin en tout cas, ont quelque chose à voir avec une forme de religiosité, et j'emploie le terme dans tout son flou, une forme de religiosité, pour autant que les croyances sont une façon d'être au monde, pour surmonter la réalité, pour la transformer. Donc presque naturellement, l'ambition démesurée, hyperbolique des technologies, eh bien, rencontre, à mon sens, quelque chose comme une religiosité au sens où nos croyances sont prises en charge par une certaine conception du monde. Je crois que le transhumanisme rend évidente cette religiosité des technosciences, et je m'aventurerai même à dire que, au fond, le transhumanisme, c'est peut-être le travestissement que prend cette religiosité générée par les technosciences. Hein, donc, c'est évidemment quelque chose de tout proche, peut-être de l'idéologie. Hein, on pourrait dire le transhumanisme, c'est l'idéologie des technosciences, mais là, je dirais un peu plus en invoquant cette idée de religiosité. D'ailleurs, on a cru au début, lorsqu'on a découvert le transhumanisme, qu'il s'agissait de sectes. Hein, quand j'ai commencé à travailler sur cette question, autour de 2007-2008, les gens imaginaient que le transhumanisme, c'était un mouvement de complot, enfin qu'il y avait quelque chose de la secte. Après tout, on sortait de la secte Moon à l'époque, ou pratiquement. Il y avait donc un certain nombre d'événements aux États-Unis qui pouvaient donner à penser que des vulgates de toutes sortes pouvaient trouver aujourd'hui à se constituer dans des communautés fermées. Et on avait imaginé que le transhumanisme était de cet ordre-là, avant de découvrir que non, que ce courant transhumaniste est beaucoup plus informel qu'on ne le croyait, et que de ce point de vue-là, c'est un mouvement très très syncrétique, hein, au sens technique du terme, hein, syncrétique, parce qu'il fait flèche de tout bois, il peut aller chercher les ressources de sa légitimité un petit peu partout. Mais néanmoins, de religieux, on peut garder quand même cette idée que le transhumanisme fonctionne de manière religieuse dans la mesure où il offre un horizon salvateur. L'idée de transhumanisme est associée à l'idée d'un salut, et certains transhumanistes n'hésitent pas à dire qu'au fond, ils se situent dans un contexte où les aspirations messianiques qui ont pu être à l'œuvre dans nos sociétés ont tari, les utopies politiques ont viré au gris. Les transcendances traditionnelles ne fonctionnent plus, ne sont plus structurantes, et bien le transhumanisme vient, en quelque sorte, relayer tout cela, hein, et par plus d'un trait, c'est vrai qu'on peut justifier une description qui ferait du transhumanisme une espèce de religion laïque, hein, mais qui aurait cette ambition, hein, de relayer le désenchantement, de relever même le désenchantement, pour parler comme Marcel Gauchet et d'autres. En tout cas, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet, ce qui m'intéresse peut-être de souligner d'emblée, c'est que le transhumanisme, lorsqu'il s'exprime de manière un peu théorique, annonce une nouvelle renaissance. C'est la Renaissance qui est sa référence première. Et il annonce une nouvelle renaissance sur la base d'une rupture qu'il nomme, que certains nomment, la singularité, hein, mais d'autres ont d'autres termes pour désigner cette rupture. Alors je voudrais m'attacher à ce point, parce que c'est souvent l'objet d'un malentendu, et ça va permettre peut-être de comprendre plus facilement la référence à la gnose que je vais faire monter dans mon exposé tout à l'heure. La référence à la Renaissance impose en effet que nous réalisions que le transhumanisme n'est pas une idéologie de progrès. Il n'est pas dans la veine, disons, de Descartes et Condorcet. Il est plutôt, enfin, si je devais peut-être le dire plus précisément, il ne s'inscrit pas dans cette espèce de dynamique qui promettait qu'avec les sciences et les techniques, nous allions réaliser le meilleur pour l'espèce humaine. On pourrait penser qu'il est spontanément là-dedans. Eh bien non. S'il y avait une référence à donner, je dirais qu'il est plutôt dans la veine de l'appel à une espèce de révolution métaphysique telle que la contre-culture américaine des années 1960 la voulait. C'est peut-être délicat à dire comme cela, mais bon, incontestablement, dans l'affiliation du transhumanisme, il y a la contre-culture américaine. Ça, c'est clair, c'est attesté. Certains des ténors du transhumanisme le disent. Fred Turner, Steve Brand, enfin, il y a des noms comme ça de gens qui, dans les années 1960, donc, en appelaient à une révolution, mais à une révolution qui n'était pas politique, qui ne se situait pas donc dans l'histoire, mais qui était verticale, si on peut dire. C'est la révolution qui était générée par les mouvements hippies, par la Beat Generation. C'est la révolution qui invoquait le LSD comme un instrument, ou le psychédélique comme un instrument même de transformation du regard. C'est l'époque où on disait la révolution, elle doit commencer par la transformation du regard que nous jetons sur la réalité. Hein, donc c'était ça. Donc une révolution métaphysique du type d'une conversion, en quelque sorte. Conversion, il fallait se détourner du monde de la consommation, tourner le dos à l'état politique forcément centralisateur, se boucher les yeux devant la perspective de la bombe atomique. Enfin, c'est tous ces éléments-là qui ont fait une espèce de brouée qui a pu justifier que le type de révolution qu'on attendait, c'était une révolution métaphysique, c'est-à-dire en rupture avec le continuum historique, en rupture donc avec les intérêts mondains, hein, si vous me permettez cette expression. Alors, je fais l'hypothèse que l'une des sources de l'attractivité des thèmes transhumanistes aujourd'hui tient à cette revendication d'un tout autre, d'un inédit, qui nous débarrasserait du déjà-là, de l'ancien. Donc, si le transhumanisme est en train de mordre dans nos sociétés technologisées, je pense que c'est par ce biais-là. Il porte la promesse, hein, de l'avènement d'un quelque chose d'absolument inouï, d'inattendu, hein, et qui va tout bouleverser et qui va permettre d'en finir avec ce dont on ne veut plus, à savoir ce qui est là. Et c'est là le sens de la référence à la Renaissance, la nouvelle Renaissance. Elle est perçue comme ça, cette Renaissance, qu'elle soit gréco-latine ou européenne, elle est perçue comme cette espèce d'aspiration à une rupture qui va ouvrir tous les possibles. À la différence de l'idéologie du progrès, hein, qui, comme disait, je me souviens plus qui c'est, je crois que c'est Lamarck, hein, qui désignait le progrès, l'idéologie du progrès comme l'épopée de l'obscur, hein, l'épopée de l'obscur, c'est ces choses, la lumière qui de plus en plus prend le pas sur la nuit, enfin, etc., toute cette mystique, hein, de ce continuum. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Et ça va très loin, si l'on y songe, puisque ce qui nous est promis par le transhumanisme, c'est le post-humain. C'est le post-humain en même temps que une immortalité proprement inhumaine. Hein, donc je caricature un petit peu la chose, hein, mais ce sont des thèmes qui sont associés au transhumanisme, cette immortalité, bon, qui est évidemment emphatique, hyperbolique, et qui ne désigne jamais plus que l'innovation des innovations. Hein, c'est quand on dit le transhumanisme veut réaliser toutes les aspirations de l'espèce humaine, bah, quoi de mieux que de dire qu'au fond l'immortalité serait cette aspiration principale, essentielle, fondamentale. Alors, nous sommes, enfin, parmi ceux qui s'intéressent à la question, nous sommes quelques-uns effectivement à avoir aperçu dans l'engagement métaphysique du transhumanisme l'écho de la gnose des premiers siècles de la chrétienté. Alors, j'ai pour ma part suivi une suggestion d'Ancionas. Ancionas, donc l'auteur d'un ouvrage important, très important, trois gros volumes, qui ne sont pas traduits, d'ailleurs il n'y en a qu'un qui est traduit, La religion gnostique, qui était la dernière parution en France, date de 1978, de sorte qu'on ne trouve plus le livre nulle part, c'est un peu dommage. Mais j'ai suivi donc une suggestion de Ancionas qui considérait que les mouvements gnostiques pouvaient nous en apprendre sur le nihilisme moderne. Et plus précisément, Ancionas trouva dans l'existentialisme de son temps, il a écrit ça dans les années 1950, la traduction de thèmes développés par Simon le Magicien, par Marcion ou par Valentin. Le parti donc que prend Ancionas dans ce livre, c'est de dire, voilà, la gnose, représentée par les noms notamment des gens que je viens de citer, la gnose peut constituer une espèce de grille de lecture qui permet de comprendre, en l'occurrence, l'existentialisme, permet de comprendre l'idée qu'on est jeté dans le monde, par exemple, l'idée qu'on est étranger à la nature, l'idée de la haine de la nature, enfin tous les ingrédients qui ont formé l'existentialisme, eh bien Ancionas s'attache à les décoder en montrant que, dans les mouvements gnostiques, on a comme ça des points de concordance, de sorte qu'on pourrait s'expliquer que la gnose soit toujours en filigrane derrière bon nombre de nos engagements. C'est marrant, mais en lisant Ancionas, je me suis dit au fond qu'on pourrait peut-être interpréter la gnose comme une espèce de baroque. Vous savez, les théoriciens du baroque présentent souvent le baroque comme une espèce d'anti-art qui vient scander chaque évolution de l'art. À chaque moment, à chaque mouvement artistique, il y a un mouvement anti-art qu'on appelle le baroque. Eh bien, peut-être que la gnose est dans cette position-là aussi, et peut-être qu'elle parcourt l'histoire des représentations non seulement religieuses mais philosophiques ou métaphysiques comme une espèce de contrepoint, mais il faudrait aller y voir d'un peu près. En tout cas, je crois que, comme Jonas, que l'idée d'un monde imparfait, donc dans lequel nous aurions été jetés, l'idée d'une humanité débile au sens faible, qui se vit comme étrangère dans ce monde, je crois que cette idée, elle est fondamentalement à l'œuvre dans les utopies post-humaines. Et je trouve même, sous la plume de Jonas, quelques formulations qui nous permettraient de substituer dans sa lecture du phénomène gnostique l'adhésion aux prophéties technologiques, substituer l'adhésion aux prophéties technologiques au pathos existentialiste. D'ailleurs, je trouvais donc quelques formulations qu'il applique au contexte de son époque, et donc à l'existentialisme et à ce qui l'entoure, On peut très très facilement transférer ces formulations pour donner du relief à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Par exemple, petite citation de Jonas, il dit ceci, « C'est du monde qu'il faut venir à bout, non pas de l'aliénation vis-à-vis du monde. » Donc il ne s'agit pas de venir à bout de l'aliénation vis-à-vis du monde. Ça nous mettrait dans une révolution politique, hein, messianique, enfin, où toutes les idéologies de l'émancipation. Donc, c'est du monde qu'il faut venir à bout, non pas de l'aliénation vis-à-vis du monde, et un monde dégradé en système de puissance ne peut être vaincu que par la puissance. La maîtrise dont il s'agit ici ne peut être, bien entendu, que la domination par la technique. Donc, une rencontre de la gnose avec quelques-uns des thèmes du transhumanisme, c'est ça peut-être mon point de départ. Alors, la gnose des premiers siècles de notre ère misait sur la connaissance, hein, gnosis, connaissance qui était aussi révélation, plutôt même révélation que connaissance au sens élaboration rationnelle. Là, on est plutôt dans l'ordre de la révélation. Et cette connaissance, eh bien, elle devait nous permettre de liquider le monde de l'Ancien Testament, donc le monde du démiurge, comme disent les gnostiques, le démiurge étant le dieu mauvais. Le Dieu mauvais, le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui a préféré une justice à l'amour, justice cruelle, donc c'est un Dieu qui est, j'allais dire, diabolisé, oui, d'une certaine façon. Et ce que promet la gnose, c'est l'avènement de quelque chose comme une vie éternelle, débarrassée du corps et de la matière. Bon, donc c'est vraiment très très... rapidement dit, évidemment trop rapidement dit, mais en gros, on trouve dans la gnose le refus du cosmos, l'idée de l'étrangeté de l'homme, et également l'étrangeté du Dieu bon, hein, et on trouve l'idée du salut grâce à la connaissance, à cette connaissance révélation. Et là, ce sont des ingrédients qui sont suggestifs dès lors que l'on essaie de prendre au sérieux le transhumanisme, comme je vais essayer de le faire. Alors, ce transhumanisme, je disais tout à l'heure, qu'il annonce un post-humain. Ce post-humain, par définition, on ne sait pas ce qu'il est, puisqu'il relèverait d'une espèce de phénomène émergentiel. Je prends par exemple Ray Kurzweil, il nous explique que, en 2045, il va y avoir cette singularité. Singularité qui, comme certains d'entre vous le savent, c'est un terme qui est utilisé en mathématiques ou en physique pour désigner la rupture. C'est la rupture du continuum mathématique chez les mathématiciens. C'est l'anomie qui prélude et qui précède la constitution des lois physiques chez les physiciens. À chaque fois, la singularité, c'est la rupture. Eh bien, là, le 2045 constituerait le moment de cette singularité aux yeux de Kurzweil, et on verrait advenir quelque chose d'inouï, qu'on est incapable de figurer, puisque précisément ça va émerger, mais on sait en tout cas que cette intelligence artificielle qui aura relégué nos intelligences biologiques dans le magasin des accessoires usés, constituera cette promotion, hein, d'un quelque chose d'autre, d'un tout autre. Hein, et on sait simplement que ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de mettre en place peut-être quelque chose comme les conditions de cet avènement. Alors, quelquefois, je m'aventure, pour donner un peu consistance à cette idée, je m'aventure à évoquer la théorie des systèmes dynamiques, les théories de la complexité, les sciences du désordre, qui nous disent à peu près toutes que, au fond, on a affaire à des systèmes, et à des systèmes qui portent de l'imprévisibilité, des bifurcations, des mouvements catastrophiques, Hein, et ces systèmes, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de travailler au niveau de leurs conditions initiales, en variant un petit peu les choses, et puis bon, en voyant ce que ça peut donner. Donc dans quantité de champs scientifiques, on est intéressé par ces systèmes dynamiques hein, qui révèlent bien à la fois l'impact qu'on peut avoir sur eux, puisqu'on modifie, on varie hein, des petits paramètres, hein, et en même temps, ces systèmes révèlent l'étendue de notre, de notre impuissance, non, de notre impouvoir, les limites de notre pouvoir à déterminer les trajectoires. Bien, le post-humain relève un petit peu de cet ordre-là. Hein. Nous sommes en train de mettre en place dans notre univers technologisé des éléments qui peuvent être comme des petites variations, comme dans l'univers néo-darwinien, hein, les petites variations hein, qui vont se dupliquer, et la duplication de ces variations peut aller jusqu'à provoquer des mutations, et ces mutations peuvent faire advenir de nouvelles espèces. Bon, en gros, dans le monde néo-darwinien, on pourrait décrire un peu la chose comme ça. Ben dans le monde technologisé, c'est peut-être ça. Hein. Les variations, ce sont les innovations technologiques que nous mettons en place, tous azimuts. Hein. Et puis ces variations, ces innovations technologiques, elles ont comme caractéristique de se dupliquer. Hein. Nous n'arrêtons pas de provoquer des phénomènes de duplication dans notre environnement, eh bien, pourquoi pas imaginer qu'à un certain niveau, il y ait une espèce de transition de phase, une rupture, hein, qui fait advenir quelque chose qu'on ne voulait pas, hein, qui nous a échappé et qui crée une nouvelle situation. Et donc, ce que disent souvent les transhumanistes, c'est que ce serait ça, peut-être, le mécanisme de production d'un post-humain, que nous préparerions notamment en développant ce qu'on appelle l'humain augmenté. L'humain augmenté, c'est-à-dire cet humain qui va de plus en plus bénéficier des adjuvants technologiques que nous produisons tous azimuts. Hein, et peut-être que l'humain augmenté, on en verra surtout le poids sur le terrain biologique lorsque, grâce à CRISPR-Cas9 ou d'autres instruments, hein, on pourra modifier le génome, hein, contrôler la sélection et modifier le génome et peut-être là faire advenir quelque chose qui sera l'autre de l'humain, un post-humain. En tout cas, un humain qui aura su fusionner avec les artefacts et qui aura su expulser les sources de fragilité qui tiennent à la biologie. Donc, voilà en gros la promesse, voilà la perspective, voilà la justification de la mise en œuvre des moyens de la technologie. Le transhumanisme, il exprime aussi une ambition totalisante. Et c'est par là aussi qu'il s'apparente à une structure religieuse. Il exprime une ambition totalisante et la conviction que le numérique, donc ce procédé qui consiste à convertir toute chose sur la base de 0 et de 1, eh bien, la conviction que le numérique nous confère le code universel, nous permettant de maîtriser toute chose. Là, il y a une mystique aussi du code chez les transhumanistes qui considèrent que cette recherche du code universel, eh bien, animait la plupart des religions et des mystiques. La technologie d'aujourd'hui, finalement, hériterait de cette ambition qu'on aurait trouvée dans le judaïsme, dans la Kabbale, dans l'islam, donc cette quête du code universel, que je n'ai pas trouvé d'ailleurs chez les gnostiques. Il n'y a pas, à ma connaissance, de fétichisation du code. Sur le plan pratique, sur le plan, disons, la vie pratique, le transhumanisme véhicule ce que Joël de Roney avait appelé à la fin d'un livre qu'il avait intitulé « L'homme symbiotique », une morale de la subsomption. une morale de la subsomption, en phase avec les religions du sacrifice de soi. Alors, j'explique là un petit peu la chose. Subsumer, c'est inscrire donc le particulier sous l'universel, en logique. Donc, une morale de la subsomption, c'est une morale qui invite au sacrifice de soi pour le tout. S'il y a une morale chez les transhumanistes, quand il y a quelque chose comme une morale chez les transhumanistes, c'est une morale qui invite effectivement chacun à l'humilité et à se convaincre qu'il n'est au bout du compte qu'un vulgaire neurone du cerveau planétaire que nous sommes en train de constituer les uns et les autres, à partir de la mise en relation de nos ordinateurs. Donc cette idée, qu'on décline quelquefois avec la noosphère de Teilhard de Chardin, etc. Tout ce brouet est là souvent, mais en gros, par exemple, Joël de René, à la fin de son livre, il dit, c'est la seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est savoir que on n'est pas grand-chose, on est le lieu de passage de l'information, et que grâce à nos ordinateurs, nous pouvons mettre en place des réseaux qui ont des effets cognitifs, notamment, tout comme le cerveau résulte de l'interaction de neurones dans des circuits synaptiques appropriés. Sur le plan moral, si l'on veut, le transhumanisme pourrait inviter à cette espèce de sacrifice de soi, ou alors il peut encourager au karma véhiculé par la Vulgate bouddhiste. Le karma bouddhiste vous dit que pour l'atteindre, il faut que vous réunissiez trois vertus, comprendre que tout dans le monde est en interconnexion, que tout est toujours dans une impermanence absolue, et enfin que le moi n'est rien. Vous faites cette expérience-là à chaque fois que vous êtes derrière votre ordinateur, vous savez bien que tout est en interconnexion, heureusement, c'est ça que vous souhaitez, et tout est éphémère, il suffit que vous n'alimentiez plus votre site pour qu'il sombre, et puis enfin, vous n'êtes pas plus que ce neurone de la planète que j'évoquais tout à l'heure, vous pouvez disparaître, personne s'en apercevra, ou à peu près personne. C'est les vertus du karma. Le bouddhisme, la Vulgate bouddhiste peut y trouver son compte. Je parle là de morale, de morale ou en tout cas de comportement moral, à vrai dire, les transhumanistes les plus connus, les plus notoires, ceux qui sont dans la Silicon Valley autour de Ray Kurzweil, se contrefichent de la morale. Il n'y a pas de doctrine, ni même de référence morale. On est plutôt dans un hyper-individualisme, dans un chacun pour soi. La question ne se pose pas. Et puis par ailleurs, si je poursuis un petit peu mon hypothèse d'un caractère significatif de la gnose pour comprendre tout cela, du côté de la gnose, je crois qu'il n'y a pas non plus grand-chose à tirer de tout cela, parce que la gnose est assez étrangère à l'idée de péché, ou complètement même à l'idée de péché. Le seul péché qu'il pourrait y avoir pour un gnostique, c'est l'ignorance, contre laquelle justement la révélation doit se dresser. Et j'ai pu, dans mes lectures entourant la gnose, voir qu'on a souvent fait valoir le libertinage qui pouvait se réclamer de la haine gnostique de la nature. On n'est pas du tout, c'est pas du tout du côté de la gnose qu'il faudrait aller chercher une formulation qui conviendrait aux transhumanistes. Bref, en tout cas, il y a dans ce transhumanisme une inspiration religieuse qu'on aurait tort de mépriser, car elle correspond, je le disais en commençant, à des attentes qui sont bien réelles dans les sociétés modernes. Je crois que l'attractivité, la perméabilité de notre contexte au thème transhumaniste tient au fait qu'il y a dans nos sociétés un besoin de croire, c'est incontestable, mais un besoin de croire sans l'astreinte à des obligations. Je crois que la marque de l'individualisme libéral, c'est que nous sommes réfractaires de plus en plus à la culpabilité. On ne veut pas s'embarrasser de péchés originels qu'il faudrait expier. Et néanmoins, ce besoin de croire, tous azimuts, hein, il est bien présent. Les moins gnostiques des transhumanistes peuvent endosser cette inspiration religieuse. Quand je parlais de les moins gnostiques des transhumanistes, il y en a un qui est intéressant, qui s'appelle Nick Bostrom, qui est sans doute le fondateur de la première association mondiale du transhumanisme en 1998, si je me souviens bien. Bon, qui est assez étranger à cette référence à la gnose. Mais en tout cas, ce Bostrom, il témoigne de la conviction, malgré tout, d'une homologie entre l'individu et le tout. Hein, et ça procède évidemment d'une inspiration religieuse. Hein, j'étais dans quelques discussions avec mon ami Étienne Klein, et il n'y a pas longtemps, tourné autour de la religion cosmique qu'invoque Einstein. Vous savez, dans « Comment je vois le monde », Einstein dit ben, « Moi, ce qui m'intéresse au plus haut point dans la physique, c'est quelle est la promesse d'une métaphysique qu'on peut considérer comme une religion cosmique. » Donc, intéressant de voir ça chez quelqu'un comme Einstein. Eh bien, je crois que c'est important à souligner que bon nombre de transhumanistes adhèrent à cette idée que les sciences et les technologies aujourd'hui nous confirment chaque jour davantage concernant cette homologie qu'il y a entre l'individu et le tout. C'est un thème renaissant, hein, ô combien la Renaissance mise sur cette homologie du microcosme et du macrocosme. Mais il faut aussi bien voir que si le transhumanisme marche, entre guillemets, c'est que il se situe dans toute la veine qui a été ouverte par les penseurs qui en ont appelé au XXe siècle à une réalliance. Le thème de l'alliance est important. Vous vous souvenez d'Ilya Prigogine et d'Isabelle Stengers qui ont écrit La Nouvelle Alliance en 1979. Avec comme sous-titre « La métamorphose de la science ». Et dans ce livre, eh bien, Prigogine s'aventurait à montrer que c'en était fini du positivisme de la séparation entre la religion et la science, et qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas dissocier les deux, hein, que l'une et l'autre s'entre-alimentaient, hein, au point que la perspective d'avoir une connaissance systémique du tout, eh bien, tenait à la coopération du point de vue religieux avec le point de vue scientifique. Et puis, je dois dire, et malheureusement, j'aurai pas le temps d'aller beaucoup plus loin là, mais cette idée d'une inspiration religieuse qui se révélerait à travers ce souci de rendre isomorphe le microcosme et le macrocosme, cette idée, elle est très bien développée dans un livre absolument fondamental à mes yeux pour comprendre tout ce que je raconte, qui est La Gnose de Princeton, de Raymond Heuruyère. Livre ô combien important, qui a eu un succès considérable en 1970. Si vous trouvez le livre, donc publié en collection de poche, il doit être épuisé, je pense qu'il est épuisé depuis longtemps, mais les éditeurs ont fait figurer, à la suite du texte de Ruyère, les coupures de presse innombrables dont a fait l'objet ce livre, et on s'aperçoit que le succès de ce livre était un succès populaire. Hein, c'était la République du Midi, ou je ne sais pas, c'était Elle, c'était Le Figaro, c'était etc. Hein, où les gens ont découvert, avec Raymond Ruyère, que les scientifiques américains, ceux de la Californie, ceux de la Silicon Valley, puisque c'est de cela qu'il parle, de Princeton et autres, hein, eh bien, ces scientifiques américains étaient en train de redécouvrir les conditions de cette réalliance de l'homme avec le monde, à laquelle aspiraient les contemporains de la Renaissance et que les positivismes avaient complètement cassé, hein, au point d'avoir rendu l'homme étranger au monde. Prenez la fin du hasard et de la nécessité, également 1970. Hein, donc Jacques Monod conclut son livre en disant « Nous sommes devenus des espèces de tziganes, hein, dans le monde, nous ne savons pas d'où nous venons, où nous allons, etc. Et nous sommes étrangers, nous sommes... c'est extraordinaire, avec un lyrisme tout à fait gnostique. Parce que c'est cette idée-là que les gnostiques animent. Enfin, donc, voilà, l'inspiration religieuse des thèmes transhumanistes me paraît vraiment trouver quantité de justification, même si la gnose et son dualisme n'y est pas hégémonique, hein, mais en tout cas, de part en part, ces mouvements transhumanistes sont évidemment syncrétiques, sont hétérogènes, hein, mais ils partagent des préoccupations qui résonnent avec les thèmes exploités par les vulgates religieuses les plus courantes, y compris le bouddhisme. Alors ces thèmes nombreux, c'est la dématérialisation. La dématérialisation, comme jugement dernier, d'ailleurs. J'évoquais tout à l'heure Teilhard de Chardin, il est à chaque fois récupéré par les transhumanistes pour dire, ben regardez, c'est Teilhard de Chardin qui nous a expliqué que finalement l'évolution allait toujours dans le sens d'une spiritualisation, hein, et cette spiritualisation, elle passe par une dématérialisation progressive. Les transhumanistes disent, ben on fait que ça. Vous voyez bien qu'on dématérialise tout. Hein. Les scientifiques étaient dans la matière, ils ont été dans l'énergie, maintenant ils sont dans l'information, hein, et voilà. Et le jugement dernier, ce sera ce point oméga culminera la dématérialisation. Des thèmes religieux extrêmement informels, c'est la haine du corps, la haine de la chair, hein, qui caractérise la plupart des transhumanistes, hein, Kurt Weill, Warwick, enfin sont des noms très très connus, hein, parce que tous ont donné à penser à quel point les progrès scientifiques et techniques devaient nous débarrasser de cette passivité qu'est le corps, hein, cette passivité qui nous est imposée, hein, comme une espèce de destin. Hein, et donc s'il y a de l'antidestin dans les sciences et les technologies, c'est précisément aller à l'encontre du corps. Bon, j'ai dans Demain les post-humains, j'ai évoqué la référence à Marinetti, au futurisme italien, parce que ça me paraissait très très saisissant de voir que le manifeste de Marinetti consonnait tout à fait avec les discours qui peuvent être tenus aujourd'hui par les Kurzweil ou d'autres. Le thème religieux également exploité chez les transhumanistes, c'est l'obsession de la longévité et de l'immortalité, confondu brutalement avec la vie éternelle, parce que c'est ça quand même aussi l'indigence des transhumanistes sur la question, hein, c'est qu'ils confondent allègrement l'immortalité et l'éternité. Bon, c'est une simplification qui, hélas, trompe facilement les gens peu instruits, et malheureusement, c'est souvent le public des transhumanistes. Et puis enfin, l'autre thème, le grand thème qui est récurrent chez les transhumanistes, c'est la fusion avec le grand tout. Je le disais à propos du cerveau planétaire et la constitution de cette totalité. Eh bien, sachez que chez les transhumanistes, cette fusion avec le grand tout, elle est pour demain aussi, hein, puisque dès lors que la biologie aura fait quelques progrès du côté de l'immunologie, on vous mettra allègrement des implants intracérébraux, sans beaucoup de risques, et grâce à ces implants intracérébraux, ben, on vous collera Internet dans le cerveau, et vous aurez atteint à ce moment-là ce qu'on appelle la pensée intégrale, hein, et cette pensée intégrale vous mettra de plein pied dans le cyberespace, hein, et vous n'aurez même plus à vous demander si vous connaissez le chinois ou pas, vous aurez le chinois dans le cerveau. C'est des choses que je caricature, mais qui sont explicites. Hein. Je vais citer tout à l'heure quelques-uns des textes des transhumanistes qui le prouvera. Alors, l'inscription du transhumanisme dans la veine des religions, dans les métaphysiques ou dans les spiritualités orientales, tient fondamentalement à une attitude insistante à l'égard du temps. Le temps. Alors, c'est un biais qui est intéressant à emprunter quand on veut comprendre un petit peu l'économie de pensée de ces transhumanistes. Le temps et la finitude humaine sont les deux obstacles que les technologies veulent en général surmonter. En général, ce n'est pas les technologies d'aujourd'hui qui veulent en finir avec le temps, avec la finitude. Au fond, on peut dire que c'est un objectif de toujours. Et c'est un objectif qui est conforme, évidemment, aux métaphysiques de toujours. Je pense à Gunther Anders, qui dans son livre « L'obsolescence de l'âme » est très bon sur cette question. Il dit qu'est-ce que c'est que le technologue aujourd'hui, sinon le dernier avatar du métaphysicien, hein, le métaphysicien veut en finir avec le temps, hein, en finir avec le fini, hein, comme disent les hegéliens. Hein, les systèmes métaphysiques, notamment les systèmes de l'idéalisme allemand, hein, sont des entreprises destinées à abolir le temps, hein, à le mettre en système. Sans caricaturer trop, on peut dire que c'est ça le pathos du métaphysicien, c'est d'en finir avec le temps, hein, de pénétrer les pensées de Dieu avant la création, hein, et de squeezer le temps, si je peux le dire ainsi. Hein. Et Anders se dit, la technologie fait la même chose. Hein, elle relaie la métaphysique, hein, sur ce terrain-là, hein, en cherchant à abolir le temps. Alors, il y a quantité de stratégies pour abolir le temps, mais rien de tel que de bons automatismes pour le neutraliser, le temps. La répétition est précisément la condition même de l'évacuation de l'événement qui fait temps, qui fait temporalité. Heidegger aussi a été extrêmement clairvoyant sur la question. Moi, je trouve que, sur la question de la technique, Heidegger est assez indépassable. Enfin, il nous dit quoi ? Il nous dit que la technologie, c'est le devenir monde de la métaphysique. Mais je crois qu'il a parfaitement raison. Et on peut trouver des justifications nombreuses. Alors, je disais à l'instant, l'un des moyens caractéristiques des technologies contemporaines, c'est de faire triompher la duplication et les automatismes. C'est de faire triompher la duplication et les automatismes sur la reproduction et sur l'hybridation. Et c'est ça, l'entreprise de neutralisation du temps qu'il y a dans les technologies. Éliminer l'altérité, si vous voulez, c'est ça. Ça, c'est une obsession des transhumanismes. Éliminer l'altérité. Et comment éliminer l'altérité, par exemple, dans le domaine des biotechnologies ? Tout simplement en supprimant la reproduction sexuée. Vous supprimez la sexualité, enfin la reproduction sexuée, vous supprimez du même coup la mort. Et vous remplacez tout ça par le clonage. Le clonage qui est bel et bien un processus, hein, de duplication. Donc il y a cette obsession-là, hein, chez des transhumanistes qui vous le disent froidement, ils vous disent ça n'est pas raisonnable de confier la procréation à la reproduction sexuée aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Laisser naître des individus du fait de la rencontre aléatoire de deux gamètes? Mais ça n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Hein. La naissance, c'est une tare dont il faut se débarrasser et remplacer cela par la fabrication, fabriquer l'humain. Fabriquer l'humain, c'est l'un des fantasmes essentiels des transhumanistes. Donc, grâce au clonage, on nous évitera le sexe et la mort. les technologies, si j'épurais à l'extrême leur obsession, c'est de faire triompher le 2 sur le 3. Voilà. Faire triompher le 2 sur le 3, proscrire le 3 qui engage toujours le hasard, l'imprévisible. Alors c'est intéressant à mettre en relief avec d'autres champs de considération. Par exemple, je sais pas, les psychanalystes, héritiers en cela peut-être du judéo-christianisme, vont mettre en avant le fait que le 3 est la seule chose qui soit structurante. Hein. Papa, maman, bon, et moi, bon, l'Oedipe, constitutif de l'épanouissement, l'émergence de la personnalité, c'est un thème important, hein, le tiers, la présence du tiers, qu'il s'appelle le père, qu'il s'appelle la loi ou comme vous voudrez, hein, en tout cas, c'est la condition même, j'allais dire, de l'humanisation, tout simplement. Eh bien, on a affaire avec les technologies à une entreprise d'éradication du tiers pour faire prévaloir le binaire. Et en ce sens, eh bien, je crois qu'on a raison de parler du pouvoir désublimant des technologies. Hein, les technologies désubliment en ce sens qu'elles interdisent l'identification au tiers, à ce tiers majorant, par laquelle on échappe à l'enfermement dans le pulsionnel. Le pulsionnel est toujours décrit chez les psychanalystes sur le mode du dual. Hein. Bon, et surmonter le pulsionnel exige toujours qu'on rencontre le tiers, hein, qui nous arrache à cet entêtement dans le dual. Mais je pense que les technologies encouragent l'addiction en ce qu'elles encouragent précisément à l'enfermement dans le binaire. Dans mon livre « L'homme simplifié », j'ai consacré d'assez nombreuses pages à la promotion de l'autisme, et notamment de l'autisme d'Asperger, hein, comme un symptôme préoccupant dans nos sociétés. Hein, l'idée que, au fond, le bon comportement qu'attendent nos technologies serait le comportement un peu caricatural, mais quand même, de l'autisme, en dit long sur cette espèce de consentement à évacuer la communication ternaire au profit de cette espèce de face à face. Mais je ferme la parenthèse, mais c'est une veine en tout cas intéressante à examiner. Cette question des automatismes, elle est vraiment essentielle, hein, dans nos sociétés. Elle touche évidemment à la transformation de notre quotidien, hein. Nous sommes dans une quotidienneté qui est scandée, grevée même par les automatismes. Et en même temps, bah, tout le thème de l'homme simplifié était pour le démontrer. Cette espèce de fréquentation quotidienne des machines nous impose nous-mêmes de nous comporter comme des machines. Hein, vous le savez bien, aussi bien que moi. Hein, et je pense que cette fascination, parce que en même temps nous sommes complices de tout ça, hein, nous sommes dans une espèce de servitude volontaire par rapport à nos machines. Il faut quand même pas exagéré, hein, bien, mais cette fascination pour les automatismes constitue vraiment à mes yeux une régression anthropologique. Hein, je pourrais l'argumenter de manière assez simple. Je dirais que on a cru longtemps que le privilège de l'humanité consistait dans son intelligence. C'est vraiment une banalité, mais on a longtemps cru, on l'a enseigné, que l'instinct était la marque de l'animalité. Bon, nous sommes, pour une part, des animaux, en tant que nous sommes des êtres qui fonctionnons à l'instinct, mais nous savons, nous nous imaginions être des êtres intelligents, précisément parce que nous sommes capables de couper court aux instincts, hein, c'est-à-dire d'ajourner les instincts et de les refuser même. Bon, on trouve ça chez Kant, hein, dans le fondement de la métaphysique des mœurs, hein, bon, il le dit très bien, il dit en gros, l'homme est un être intelligent parce qu'il est capable de résoudre des problèmes, tandis que l'animal dispose d'une science naturelle de satisfaction, hein, qui lui permet de satisfaire justement immédiatement ses besoins. Hein. Nous sommes des êtres de médiation, confère ce que je viens de dire à propos du tiers, hein. Les animaux sont des êtres d'immédiation, ils sont dans le face-à-face ou dans le dual. Ben, il faut constater, il faut se dire qu'avec les technologies, les automatismes prennent le pas sur la réflexion et la réactivité devient la vertu majeure, essentielle. Hein. Et donc, cette régression anthropologique, vous voyez bien, elle consiste à minimiser la part de l'intelligence au sens où l'intelligence nous permet de contrecarrer le pouvoir des instincts, et au contraire, nous nous abandonnons à des automatismes qui nous mettent en demeure d'être continuellement réactifs. Tout se passe donc comme si l'intelligence dédiée aux machines devait imiter l'instinct et appliquer aux situations des mécanismes et des algorithmes qui supprimeront l'errance et le hasard. Bon, ma phrase est compliquée pour dire quelque chose de simple. Au fond, on met tout en œuvre aujourd'hui pour substituer à l'intelligence l'instinct, quitte à appeler l'instinct intelligence. On n'est pas à une simplification près. J'ai découvert tardivement, mais comme tout le monde, je crois, en France, le livre de Skinner, Walden 2. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là, mais il faudrait le lire. C'est une utopie, donc Skinner, c'est le fondateur de la psychologie comportementaliste. Donc Skinner est l'un de ceux qui a accrédité l'idée que les humains sont des boîtes noires qui reçoivent des stimuli et qui produisent des réponses. Hein, et la psychologie est devenue à ce moment-là simplement cette discipline qui analyse la relation des stimuli et des réponses en faisant l'impasse complète sur la vie intérieure, puisqu'il n'y a pas d'intériorité, ça n'est pas accessible à la science, donc on l'évacue. Hein, et la seule psychologie qui soit, c'est cette psychologie comportementaliste. Eh bien, Skinner, donc, qui est apparu dans le contexte français comme un personnage un petit peu sulfureux, parce que, donc, à l'époque, il y avait Piaget, il y avait Vallon, etc., qui étaient des philosophes qui avaient, enfin des philosophes, des psychologues qui avaient la conviction que quand même nous avions quelque chose comme une conscience, nous avions des intentions de faire ce que nous faisons, etc. Et bon, a déferlé à cette époque la psychologie américaine qui nous a dit mais balayez tout ça, hein, et contentez-vous de regarder comment les individus se comportent dans telle ou telle situation, vous verrez qu'ils obéissent à des schémas mécanistes permanents, etc. Bien, Skinner a écrit une utopie qui s'appelle Walden 2, Walden par référence à Searle, hein, qui plus est, hein, et dans lequel il s'est imaginé le fonctionnement d'une société qui n'obéirait que aux axiomes de la psychologie comportementaliste. Et c'est une utopie au meilleur sens du terme, c'est-à-dire, un pauvre type se perd sur les mers, il navigue, et puis toc, il achoppe sur une île, et dans cette île, eh bien, il y a précisément la société expérimentale de Walden 2. Et si je l'évoque, c'est parce que ce livre, on a refusé de le traduire en France pendant des années. On l'a traduit, je crois, qu'en 2002 ou en 2003, alors qu'il date de 1948. Il y a une espèce de... On dit non, trop c'est trop, faut pas exagérer. Hein, et aucun éditeur n'a voulu prendre le risque de publier cette utopie. Mais il faut voir dans le détail comment on met en place vraiment cette psychologie réductionniste, en intrigue, et le livre se conclut par justement il faut, je crois que je cite à peu près de mémoire, il faut substituer à l'intelligence l'instinct. Hein, ce sera la clé de toutes les satisfactions pour les humains. Bon, donc tout ça serait intéressant, mais vous savez, j'ai trouvé aussi chez les paléo-anthropologues des réflexions de cet ordre-là aussi, hein, disant que l'évolution de l'humain devait aller vers toujours davantage d'automatisme, toujours davantage d'instinct, et une minimisation de la conscience et de la réflexion. Le roi Gouran tient ce genre de discours. Alors, je l'ai déjà dit, la duplication, ou l'algorithme, si on veut, caractérise l'objectif de la plupart des dispositifs techniques, et elles le font, enfin, la duplication, l'algorithme sont requis précisément parce qu'on a le sentiment que c'est par là que on garantira la sécurité, la prédictibilité dont nos sociétés ont besoin. Il faut aussi bien voir les choses. Développer des algorithmes, c'est la condition même de fonctionnement sécuritaire dans nos sociétés. Donc l'idéal des sociétés technologisées, c'est de stabiliser le cours des choses, hein, de réaliser au mieux l'équilibre mobile, l'homéostasie entre l'humain et son environnement. Et cette stabilisation, eh bien, elle tiendrait lieu de rupture dans un contexte où le régime des sociétés est soumis à un processus historique. Au fond, nous modernes, ben, nous sommes convaincus que l'humanité est soumise à un régime d'historicité. C'est pas simplement sur le terrain politique où, par exemple, Claude Lefort disait la démocratie, c'est le régime historique par excellence, hein, parce que c'est un régime qui doit épouser bon, les évolutions, qui est toujours la traduction de la gestion de conflits, enfin, etc. Hein, mais d'une façon générale, nous pensons que l'historicité est au cœur même de l'humain. Les technologies vont faire rupture, prétendent faire rupture, précisément en gelant cette historicité à travers des fonctionnements qui sont de l'ordre de la répétition et des automatismes. Les automatismes que nous multiplions ont cette vertu de favoriser un monde destiné à ne pas changer. Ils sont à leur façon l'annonce d'une victoire sur le temps, de sorte que le triomphe des technologies rencontre l'obsession d'achever l'histoire en instaurant un éternel présent. C'est complexe, peut-être ce que je dis là, je pourrais très très vite vous dire de lire Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, je crois, a des intuitions absolument géniales qui vont dans ce sens-là. Le gel du temps, bon, à travers effectivement le clonage, à travers les manipulations biotechnologiques, etc., comme l'obsession des sociétés exsangues qui sont les nôtres, qui ont fait leur temps, si on peut dire, qui ont porté leur historicité au paroxysme, etc. En tout cas, les utopies technologiques qu'on peut lire aujourd'hui, ou qu'on peut apercevoir à travers la science-fiction, aux films de science-fiction, toutes ces utopies technologiques procèdent de représentations de la fin de l'histoire. Appliquées aux vivants, les technologies affichent de plus en plus clairement un recours à la duplication pour conjurer les aléas de la vie. Et c'est évidemment ainsi qu'elles recourent au clonage, aux fins de fabriquer le vivant, ou qu'elles prospectent des possibilités de supprimer le vieillissement, par exemple, en maîtrisant le mécanisme de duplication cellulaire. Ça fait partie du cœur du métier, au fond, du biologiste aujourd'hui, hein, que d'essayer de conjurer la télomérase, enfin, ce que les biologistes appellent la télomérase, c'est-à-dire ce mécanisme d'usure lié à la duplication. Certains se disent même qu'un monde technologisé qui aurait conjuré l'évolution, en faisant donc prévaloir les automatismes, eh bien ce monde devrait bien pouvoir accueillir des êtres immortels. Au fond, le fantasme de l'immortalité, il est parfaitement cohérent dans un contexte où on cherche à réaliser un monde intégralement stabilisé, hein, grâce à des machines duplicantes ou autoduplicantes. Et accueillir des êtres immortels, c'est-à-dire des êtres débarrassés du désir, hein, puisque le désir appelle le temps, et des êtres qui seraient résolus finalement à la répétition des cycles naturels dont s'accommodent les animaux. Hein, et l'immortalité que l'on vise, elle est proprement animale, puisqu'elle ne consisterait que dans la cyclicité des métabolismes biologiques qu'on aurait dominés. Alors, pas la peine de souligner ici l'inspiration gnostique qu'un tel projet pourrait se donner. Hein, s'arracher au monde et sortir de l'histoire pour réaliser une immortalité qui nous débarrasserait du désir et du temps, ça c'est quelque chose que l'on trouve dans Simon le magicien et j'ai vu ça chez Valentin. Enfin bon, ce sont des thèmes qui sont largement exploités par les gnostiques. Donc il faut s'en convaincre, pardonnez-moi, je suis peut-être un peu long, l'âge de la duplication ne laisse d'espoir au temps et à l'histoire que dans la production de bugs. Au fond, on en est aujourd'hui à se dire que pourvu qu'il y ait des bugs, parce que c'est les bugs qui font événement et c'est les événements qui relanceraient l'histoire. Hein. Il faut donc souhaiter l'émergence de ces bugs. Il faut vouloir l'échec des automatismes pour retrouver une initiative proprement humaine et avec elle quelque chose comme une dignité. C'est paradoxal, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on doit nécessairement se dire. Hein, si la singularité promise en 2045 ou plus tard, advenait, le seul moyen pour nous de reprendre l'initiative, nous humains, nous les chimpanzés du futur, comme on nous appelle, ce serait précisément qu'il y ait quelque chose qui grippe dans l'intelligence artificielle et que nous puissions reprendre le contrôle. Donc on en est là, à souhaiter cette espèce de parasitage, qui évidemment est insécurisant, puisqu'il réintroduit de l'imprédictibilité, etc. Voyez la cyberattaque là, qui nous tétanise tous. Hein. Oui, mais c'est peut-être le prix à payer pour que quelque chose comme une histoire soit préservée. Alors quelques mots pour préciser le sens paradoxal de la prospective dont témoigne le transhumanisme. Et là, je vais peut-être évoquer des choses, surtout sur un terrain informatif, je voudrais évoquer des choses relatives au cahier des charges que les transhumanistes se donnent aujourd'hui et qui dessinent un petit peu le paysage de cet avenir qu'ils nous promettent ou dont ils nous menacent, je vous laisserai juge. Donc on sait que le transhumanisme entend nous convaincre que les aspirations humaines seraient toutes satisfaites grâce aux technosciences. C'est leur contrat de base. Laissez faire les technosciences et tout ira pour le mieux. C'est ce que proclame mon collègue Laurent Alexandre assez souvent. Alors je voudrais, pour donner des éléments pour justifier cette affirmation, recourir à ce qui est quand même le corpus fondamental du transhumanisme aujourd'hui. C'est le rapport qui a été remis au gouvernement américain en 2003 sous le titre « Convergence technologique pour l'augmentation des performances humaines ». C'est un rapport qui est maintenant très très connu sous l'acronyme NBIC. Donc c'est très connu maintenant, N comme nanotechnologie, travaille au niveau du milliardième de mètre, B comme biotechnologie, essentiellement les PMA si vous voulez, I comme informatique et C comme sciences cognitives et neurosciences. Bon, donc on est persuadé que la convergence de ces quatre disciplines est en train, précisément, de mettre en place toutes les conditions pour satisfaire les aspirations de l'espèce humaine depuis toujours. Ce rapport fait 400 pages, il a deux auteurs, Rocco et Bainbridge, qui ont réuni donc l'ensemble des éléments permettant de de donner au gouvernement américain un juste panorama des innovations technologiques en place. Ces deux auteurs, c'est Rocco et Bainbridge. Bainbridge est historien des religions, ce qui n'est pas inintéressant, et Rocco est ingénieur. Eh bien, l'introduction de ce rapport que je vais évoquer maintenant constitue quelque chose comme un manifeste pour les transhumanistes, hein, parce qu'il y a, encore une fois, le scénario à venir du développement des technosciences. Et puis, par ailleurs, c'est devenu, le rapport NBIC est devenu quand même aussi l'agenda de la plupart des politiques de recherche des pays développés. Je vous assure que, par exemple, si on s'est mis, nous aussi, en Europe, à vouloir un cerveau artificiel, après que les Américains aient mis en place également une recherche là-dessus, c'est aussi parce que dans le rapport NBIC, on nous annonce des ouvertures et des possibilités faramineuses sur ce terrain. En tout cas, ce manifeste qui ouvre le rapport NBIC, il commence par ces mots que je vous cite. « Nous sommes à l'aube d'une nouvelle renaissance dans les domaines de la science et de la technologie, basée sur une compréhension exhaustive de la structure et du comportement de la matière, tant à l'échelle nanométrique qu'au niveau du système le plus complexe découvert, le cerveau humain. » Donc, voilà, au fond, l'association de la renaissance avec la connaissance, hein, connaissance donc de la structure exhaustive du monde, si on veut, depuis la structure intime de la matière jusqu'à cette matière incarnée dans nos cerveaux, hein, qui est le foyer de toutes les possibilités. Alors évidemment, présentant le transhumanisme sous l'angle de cette proclamation emphatique en faveur d'une nouvelle renaissance, c'est peut-être être naïf et oublier que le courant transhumaniste, s'il connaît une audience croissante, c'est pas seulement parce qu'il satisfait un besoin de croire dans un salut possible, mais c'est aussi parce qu'il rencontre l'appétit d'innovation et les attentes des milieux économiques, industriels et politiques, évidemment. Donc il ne faut pas être naïf. Et de fait, dans le rapport NBIC, l'avenir est identifié à la compétition internationale, à la réactivité au marché, à la prise de pouvoir sur l'information, à l'accroissement des performances humaines, à l'amélioration de la longévité. Je cite là un certain nombre d'entrées dans ce rapport. Et ce rapport, il place le monde meilleur à venir sous le signe, je cite, de la performance humaine et de la productivité de la nation américaine, puisque c'est un rapport américain. Je cite encore l'inventaire des promesses qui sont formulées dans ce rapport. Je le cite, les exemples de ces gains en productivité se mesureront à l'amélioration du rendement et de l'apprentissage du travail, à l'amélioration des capacités sensorielles et cognitives des gens, aux nouveaux processus de fabrication et à la diffusion de produits améliorés. Les changements révolutionnaires dans la santé, l'amélioration à la fois individuelle et collective du rendement, les techniques de communication hautement efficaces, notamment l'interaction de cerveau à cerveau, le perfectionnement des interfaces homme-machine, y compris l'ingénierie neuromorphique pour une utilisation personnelle et industrielle, le renforcement des capacités humaines pour la défense nationale, l'accès à un développement durable grâce aux outils NBIC, et le recul du déclin physique et cognitif qui est commun à l'esprit vieillissant. Vous voyez, on met plein de choses. Si j'avais simplement trois trucs à relever, je dirais l'insistance sur la communication de cerveau-cerveau, l'insistance sur tout ce qui relèverait de l'ergonomie nous permettant de perfectionner les interfaces homme-machine, l'insistance sur le développement durable, hein, parce que les transhumanistes, certains sont vraiment impliqués dans des problématiques écologiques, et puis tout ce qui concerne la lutte contre le déclin physique et cognitif, etc. Alors, cette révolution technologique qui nous est promise et qui nous promet un monde meilleur, une nouvelle renaissance, évidemment, elle, Elle est d'autant plus attirante et crédible qu'on noircit le tableau de ce qui est actuel. Hein, je ne peux jamais m'empêcher, quand je parle de transhumanisme, d'évoquer les propos de Jean-Michel Truong, auteur d'un livre au titre inspiré de Teilhard de Chardin, comment c'était le livre proprement inhumaine, ou quelque chose comme ça. C'est le titre de son livre, bon, qui explique simplement que après la Shoah et les désastres du XXe siècle, désastres écologiques et politiques, on ne peut pas vouloir que l'avenir ait le visage de l'homme. On ne peut pas vouloir que l'avenir ait le visage de l'homme, hein, et donc tout ce qui est mis en œuvre dans les NBIC est destiné précisément à changer le visage de l'homme, à rendre l'homme autre qu'il n'est, c'est-à-dire post-humain, et à générer l'espérance d'une post-humanité. Alors, comme j'ai été un peu long, je ne vais peut-être pas énumérer les promesses les plus insistantes de ce rapport. Je les ai sous les yeux, mais simplement les têtes de chapitre. Hein, travailler à développer des interfaces rapides, multiplier les capteurs, les ordinateurs pour améliorer évidemment la prise d'information, développer des robots et des logiciels qui fonctionneront de plus en plus en phase avec les humains, bon, générer de nouvelles connaissances, etc., mettre en place des instruments de communication et de coopération. Bon, vous avez dans le détail des choses, bon, la capacité à contrôler la génétique des humains, donc toute la problématique de l'eugénisme, l'eugénisme positif, est prescrit, la lutte contre les handicaps physiques et mentaux, l'éducation formelle, hein, l'idée que formulent les gens concernant l'éducation, c'est de dire que voilà, on va pouvoir, sur la base de cette compréhension exhaustive de tous les degrés de réalité, depuis l'infiniment petit jusqu'à la structure du cerveau et jusqu'à l'astrophysique, bah, sur cette base-là, on devrait pouvoir édicter un programme d'éducation formelle en un programme unique, hein, basé sur un paradigme intellectuel hiérarchique complet pour comprendre l'architecture du monde physique à partir de l'échelle nanométrique jusqu'à l'échelle cosmique. Donc il y a cette idée extrêmement naïve et brutale, hein, selon laquelle, au fond, tout le cursus des jeunes à venir, hein, passera par ce programme dicté par la compréhension de l'emboîtement des degrés de réalité que les sciences et les techniques mettent en lumière. Alors j'arrête cette énumération des bienfaits attendus de la révolution technologique en train d'afficher ses effets dans quantité de domaines qui touchent à la vie quotidienne. Évidemment, il faudrait aller voir du côté de la santé connectée, du quantify self, de cette médecine personnalisée, prédictive, basée sur les objets intelligents. Il faudrait voir d'à peu près tout ce qui se déploie aujourd'hui du côté de la robotique de service. Je n'évoque pas certaines annonces hyperboliques, hype, comme on dit, qu'on trouve dans ce rapport concernant le cerveau artificiel. Donc, ce cerveau artificiel qui est quand même un raté de première que l'Europe a abondé d'un milliard d'euros il n'y a pas très longtemps. C'est le cerveau artificiel donc, qui est confié au laboratoire de Lausanne, le Human Brain Project. Bon, et de ce programme, bon, effectivement très très ambitieux, de ce programme où on fuit à peu près tous les neuroscientifiques les plus crédibles, comme Stanislas Dehaene ou autres, hein, qui faisaient partie du projet et qui très très vite sont dit, donc là on est dans une gabegie incroyable. Je n'évoque pas non plus toutes les annonces concernant la maîtrise des mécanismes cellulaires du vieillissement que j'évoquais tout à l'heure, la production d'organes artificiels, ça pourtant il y a des choses qui sont exaltantes, hein, c'est notamment la découverte des cellules totipotentes induites, hein, les fameuses IPS, hein, qui donnent à penser qu'on pourrait, dans un avenir proche, produire des organes à la demande à partir de la mise en culture de nos cellules somatiques capables de régresser à l'état de cellules germinatives. Donc tout ça est aujourd'hui en tout cas bien scénarisé. Est-ce que on y parviendra ou pas? Je pense qu'on y parviendra. Je pense qu'effectivement on sera capable de remplacer nos organes par des organes issus de cultures de cellules souches. La fabrication de robots androïdes capables de simuler nos facultés cognitives aussi bien que nos performances émotionnelles ou sensorimotrices, bon, ça c'est une problématique que l'on suit au jour le jour. Et, bon, tout ça fait partie évidemment des ingrédients du monde meilleur qu'on nous annonce et qui justifie qu'on veuille booster le travail des laboratoires high-tech et puis secouer aussi nos politiques pour qu'ils puissent soutenir tout cela. Mais ce que je voudrais, pour conclure, souligner, je vais le faire sans beaucoup de transition, c'est l'impression que donne, l'impression un peu vertigineuse que donnent ces promesses technoscientifiques. Et puis en même temps, le degré de pénétration dans nos esprits de toutes ces promesses. Dans le livre « Demain, les post-humains » que j'ai publié donc en 2009 et qui a été réédité plusieurs fois, et notamment l'année dernière en livre de poche, aux collections plurielles, dans ce livre, je soutenais une thèse à laquelle je tiens encore aujourd'hui. La thèse selon laquelle le transhumanisme témoigne d'une sorte de dépression. Je crois que les transhumanistes sont fondamentalement déprimés, même si Laurent Alexandre me dit que moi qui ne veux pas vivre 1000 ans, je suis sans doute le plus déprimé des déprimés. Bon, je suis pas certain. Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment une dépression évidente dans cette espèce de mésestime dans lequel on tient l'humanité, dans cette volonté de fuir la finitude, et cette volonté donc de rompre avec le monde tel qu'il est. Mais je crois que cette dépression, elle se traduit aussi par la propension à écraser toute dimension symbolique dans l'approche de l'humain, c'est-à-dire à exclure tout ce qui relèverait de l'aptitude à mentaliser des situations, à se représenter un devoir-être, à s'extraire du monde des signaux pour valoriser les signes et le dialogue. Le concept de dépression que j'invoque, c'est un concept qui a été jadis développé par l'école de psychosomatique française. C'était Marty, je me souviens plus de son prénom. Mais enfin, un grand psychosomaticien qui avait élaboré le concept de dépression essentielle pour désigner la situation pathologique dans laquelle on se trouve, non seulement lorsqu'on traîne sa vie comme un boulet et qu'on est complètement désubstantialisé, mais également lorsqu'on se jette dans la fuite en avant et dans l'hyperactivité, parce que l'hyperactivité est aussi un symptôme de dépression. Et ce que montrait bien Marty, c'est qu'au fond, le propre du déprimé, c'est que il n'a plus de vie intérieure. Il n'a plus d'espace de mentalisation. Et c'est ça, précisément, qui le rend si fragile et qui impose au psychothérapeute de lui redonner quelque chose comme de l'inconscient, comme une profondeur de champ. Mais cette expulsion de la mentalisation des situations, qui est un handicap incroyable, puisque c'est ce qui vous interdit également de formuler des projets, de vous projeter dans l'avenir, ou de vivre dans le temps, eh bien, je pense que c'est un trait assez prégnant dans le monde qui hypervalorise les technologies. Le monde des signaux, je tiens beaucoup à cette opposition entre le signal et le signe pour camper le diagnostic concernant la vie que nous développons avec nos technologies. Je considère que nous faisons valoir les signaux sur les signes. C'est pas, c'est, c'est pas une information époustouflante. Hein. Nos machines sont des machines à produire des signaux. Et nous, nous sommes des machines à répondre à ces signaux. Hein. Nous sommes continuellement dans des échanges de signaux. Qu'est-ce que c'est qu'un signal ? Un signal, c'est un message qui appelle une réaction comportementale. Hein. Émettre un signal, c'est s'attendre à ce que la compréhension du signal se solde par la réponse appropriée. Vous vous arrêtez au feu rouge, c'est un signal. Bon. Toutes nos technologies produisent des signaux. Le serveur vocal, hein, qui vous demande de prononcer le bon mot-clé pour expliquer la panne d'électricité qui vous affecte, des choses comme ça, c'est un signal qu'on attend. On entend le mot et à ce moment-là, il y a une réponse appropriée dans quelques fois. Bon, en tout cas, c'est ce monde-là que nous produisons tous azimuts. Hein. Le signe, qu'est-ce que c'est ? Le signe, c'est aussi l'émission d'un message, mais d'un message qui attend en retour un autre message. Quand nous allons parler tout à l'heure, on émettra de part et d'autre des messages, mais nous entrerons dans une relation de dialogue. Je considère que ce qu'il y a de profondément dépressif dans le monde des technologies, c'est que nous sommes dans un monde qui écrase les signes au profit des signaux. Et la désubstantialité ou désubstantialisation des relations humaines, interpersonnelles, tient précisément à cette espèce d'hégémonie que prennent les signaux sur les signes dans le contexte des machines que nous produisons. Je crois que c'est quelque chose qu'il est important de souligner. Désymbolisation, ce pourrait être le maître mot pour expliquer l'effet attendu des technologies appliquées à l'humain. Hein, nous désymbolisons les relations, nous désymbolisons le monde humain avec les machines et nous créons une manière de démoralisation. Hein, nous sommes exposés de plus en plus à une démoralisation qui peut se traduire effectivement par le comportement dépressif dans ce contexte de la prise de pouvoir des machines sur nous. Alors, après avoir introduit sur la religiosité implicite qui anime les courants transhumanistes, je voudrais conclure en soulignant l'autre aspect du titre de ma conférence qui invoquait le symbolique. Le symbolique. Ce que l'on nomme symbolique décrit précisément ce que le transhumanisme écrase dans sa représentation de l'humain. Et plus grave encore, ce que l'on semble prêt à éliminer de soi-même quand on accorde du crédit aux thèses immortalistes soutenues par ce qu'on appelle les technoprophètes. Au fond, ce que je veux dire ici, c'est que ce symbolique dont je me dis qu'il est en voie d'être expulsé de notre monde, je crois que il est à la clé vraisemblablement du diagnostic qu'on est tenté de poser sur la situation humaine qui nous est faite. J'aurais pu prendre un exemple simple quand j'ai évoqué la médecine connectée. La médecine connectée, donc cette médecine qui va passer par la prolifération de biocapteurs, de bracelets électroniques, d'implants intradermiques, voire intracérébraux, cette médecine qui va reposer d'abord et avant tout sur la collecte de données sur nos corps, hein, collecte de données dont on vous dira qu'ils permettent de personnaliser votre diagnostic, collecte de données qui seront corrélées à d'autres bases de données et qui produiront des diagnostics par croisement, par intersection, cette médecine-là, elle est tout entière dominée par le quantitatif. Hein, et je pourrais dire qu'elle est désymbolisante, en ce sens qu'elle exclut de plus en plus la relation dialoguée du médecin et du patient. Cette relation, elle va devenir de plus en plus exotique. Hein, elle... le patient n'est plus pris en considération en tant qu'être de dialogue, en tant qu'être de signe. Hein, le patient est devenu précisément un support de signaux. Hein. Vous êtes support de signaux qu'on soumet au calcul, mais plus le porteur de signes, de signification, de dialogue. Hein, c'est ça que j'appelle la désymbolisation, et c'est ça qui me permet de qualifier le symbolique comme ce qui est le plus humain en nous. Alors, pour aller très vite, je vais définir le symbolique par trois traits, trois caractéristiques, et j'emprunte cette description à Cassirer, un philosophe bien connu, qui, en retravaillant un petit peu Cassirer, et puis j'ai trouvé chez Stéphane Vial aussi une belle description aussi de ce symbolique, on peut dire qu'au fond, le symbolique a une première caractéristique, c'est le pouvoir de désigner quelque chose en son absence. Voilà. Nous, humains, nous avons cette faculté de pouvoir désigner quelque chose in absentia. Nous avons la faculté de l'inactuel. C'est extraordinaire de le dire comme ça, c'est peut-être emphatique, mais nous avons cette faculté de l'inactuel. C'est le langage qui nous donne essentiellement cette faculté. Et ce langage, il est de plus en plus malmené par les transhumanistes, comme je l'ai dit, qui réduisent le langage à des systèmes de signaux. Bon, ça c'est la première caractérisation du symbolisme, du symbolique. La deuxième caractérisation, elle consiste dans le fait que nous sommes humains parce que nous sommes capables d'interrompre les communications immédiates. Nous sommes capables d'interrompre les communications immédiates. Je pourrais le dire différemment, puisque je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la faculté de résister aux automatismes que les technologues ne cessent de multiplier dans notre environnement. Cette aptitude à différer une réponse, ne pas céder aux automatismes. Ça fait de nous des êtres humains. Et la troisième caractérisation du symbolique, c'est la distance psychique. Nous avons cette faculté de désintéressement qui nous permet d'abord de nous adonner à des activités ludiques et de ne pas coller à l'immédiat. Donc vous voyez, ces trois éléments nous caractérisent comme humains, et ce sont ces trois éléments-là qui me paraissent le plus menacés dans la culture que nous développons, dans la culture numérique que nous développons. Et c'est ça, donc, dont je dirais que, s'il y a un chantier à mener, s'il y a des revendications à formuler contre la prise de pouvoir des machines sur nous, eh bien, elle tiendrait dans la mise en valeur de ces trois aspects qui composent le symbolique. Voilà, j'ai été long, pardonnez-moi, mais je vous remercie en tout cas de votre attention.
Un très grand merci pour votre conférence qui nous ouvre des horizons, j'avoue, en tout cas moi qui ne suis vraiment pas particulièrement compétente dans ce domaine, des horizons un peu effrayants malgré tout. Mais en tout cas, j'ai trouvé extrêmement suggestif votre comparaison avec la gnose, parce qu'effectivement, ça met bien en évidence une dérive sous ce qui peut apparaître comme un progrès, vous évoquiez à l'instant la médecine hyperconnectée, se cache malgré tout un revers, et qui n'est pas des moindres, dans cette perte du symbolique et cette perte de l'humain comme tel, puisque à la limite c'est une régression à laquelle nous risquons d'être conduits s'il n'y a pas ces bugs salvateurs que vous évoquiez. Donc le salut ne vient peut-être pas du progrès linéaire du numérique, mais peut-être des échecs qu'il risque de, auquel il peut se heurter. Mais je pense que dans la salle, d'autres seront bien plus capables que moi de poser des questions pertinentes et de réagir aux pistes intéressantes que vous nous aviez développées. Donc, on va peut-être prendre plusieurs questions à la fois, ce qui vous permettra ainsi, si vous le souhaitez, d'organiser comme vous le voulez la réponse. Oui ?
Je vais vous interroger sur la compatibilité entre Renaissance et singularité. La Renaissance, c'est...
Vous souhaitez répondre oui, avant peut-être. D'avoir une multitude de questions.
Oui, Renaissance, singularité... Je suis d'accord avec vous. La représentation qu'on a de la Renaissance, c'est ce mouvement qui va puiser dans les traditions les éléments qui vont permettre de propulser, d'ouvrir un nouvel avenir. Alors, ce que je dirais, c'est que quand même, la connotation de la Renaissance, surtout dans l'utilisation qu'on en fait chez les transhumanistes, la connotation de la Renaissance, c'est l'idée de l'infinité des possibles qui se trouve activée contre le monde de la fermeture qui est censé être celui du Moyen-Âge ou de l'obscurantisme. Qu'on soit amené à réactiver du déjà-là pour établir de nouvelles combinatoires destinées à faire émerger l'inédit et donc le singulier, ça me paraît pas incohérent avec une certaine représentation de la Renaissance comme cette indéfinition des possibles. On peut trouver des échos de cette sorte aussi bien chez Montaigne que chez Machiavel, enfin donc l'idée de l'accueil d'une indétermination là où précisément on était dans un monde fermé. Alors bon, je crois que c'est ça essentiellement. Ça veut dire que si on était rigoureux, il faudrait dire qu'on doit trouver chez les transhumanistes le support, l'élément qui fait tremplin dans un déjà-là et qui permet d'anticiper une redistribution des possibles. Je crois en tout cas que c'est singulièrement différent de l'idéologie continuiste d'un progrès sommatif tel que Pascal déjà l'avait caractérisé. Donc, je vois pas d'inconséquence absolue à associer l'idée de singularité avec l'idée d'une renaissance prise à la lettre comme réactivation de traditions multiples et variées, syncrétiques, pour relancer le processus. Alors, les Saint-Irénées d'aujourd'hui, j'avoue que je suis vraiment embarrassé. J'aurais envie de dire, vous allez vous y mettre, peut-être. Vous savez, quand j'ai évoqué Raymond Ruyère, et quand j'ai lu Raymond Ruyère, il y a très très longtemps, je me suis dit qu'il jouait quelque chose comme le rôle d'un Saint-Irénée en fustigeant les gnostiques nouveaux qui proliféraient en Californie. Donc je me suis dit qu'il était dans cette posture critique. Et puis je l'ai relu récemment et je me suis aperçu que non, il n'y avait pas du tout cette dimension d'ironie chez lui. Il adhérait complètement à la chose. Et il était parfaitement synchrone avec les Louis Powells et la revue Planète, qui a été une revue absolument considérable dans les années 1960, où on se laissait happer par le vertige des religions, des spiritualités orientales, des technologies hypermodernes, enfin, etc. Tout était là-dedans. Donc, j'ai peur de pas savoir où aller chercher la critique aujourd'hui, parce que ça passerait par quoi aujourd'hui Moi, je résume souvent les choses. Souvent, les gens ils me disent, mais enfin, bon, tout ce que vous nous racontez, ça nous plombe plutôt qu'autre chose. Et puis, on voudrait bien savoir comment s'en sortir. Je dis, c'est pas facile. Il faudrait d'abord que vous vous réconciliez avec vous-même. Je dis aux gens, donc, essayez de réaimer l'humanité dans ce qu'elle a de fragile, de vulnérable, de méchante, etc. Essayez d'avoir cette posture-là, et à ce moment-là, vous romprez avec la diabolisation du monde, qui est au cœur même de la gnose. Mais bon, c'est des vœux pieux, mais ça passera par là, quoi. Alors, j'ai pas tout à fait bien compris le sens de votre question, mais je crois quand même toucher quelque chose par le biais des gens que vous avez nommés, Max Mohr, Nicolas de Vleck, enfin, ou autres. Il y a des transhumanistes qui sont moins effectivement entêtés de rupture que ceux que j'ai pu décrire. Max Mohr, il a fondé un mouvement qui s'appelle le mouvement des extropiens. Lui, quand même, il va un peu fort, puisque ce qu'il veut, c'est aller à l'encontre du deuxième principe de la thermodynamique, l'entropie. C'est quand même pas mal, quand même, hein. D'ailleurs, voilà, hein, donc, tout nous montre que l'univers va vers sa dégradation. Ben non, maintenant, avec les technologies, on va faire l'inverse. Hein. Donc, il va très fort. Là, il est dans une négantropie qui est proprement une rupture. Mais néanmoins, il y a chez lui quelque chose comme une posture d'ouverture. C'est lui dont je disais tout à l'heure qu'il est proche des écologistes, de certains écologistes, puisqu'il propose des formules toutes simples, le réchauffement climatique. Bon, il ne pense pas que ce soit un effet anthropique, hein, mais il pense que le réchauffement climatique, c'est tout simple. Avec nos technologies, on devrait pouvoir bouger la Terre de son orbe, hein, l'éloigner un peu du Soleil, et puis, bon, c'est tout simple. Hein. Donc, bon, voilà. Ouais, donc, c'est lui aussi qui, bon, là, c'est plus raisonnable, mais il pense qu'il faudra envoyer dans l'atmosphère quantité de petits miroirs, hein, pour réfléchir les rayons du soleil et les réfracter, et donc on va résoudre les problèmes. Donc il est dans une posture, j'allais dire, réformiste, et donc pas révolutionnaire au sens où il voudrait la rupture. Donc il fait partie effectivement de ces gens qui inspirent pas mal de recherches ou d'innovations technoscientifiques. Et puis il y a le courant transhumaniste français, donc l'Association française du transhumanisme, que dirige Marc Roux, Didier Kerneuil, des gens que vous connaissez, je crois, qui est plutôt gentillet. Alors eux, ce sont des babacools. Hein, ils considèrent que les sciences et les techniques donc vont permettre de prolonger la vie de tout un chacun, et de nous assurer la suppression des maladies, etc. Donc ils sont dans cette inspiration transhumaniste, mais ils ont une caractéristique qui les rend très très différents des transhumanistes américains. Ils sont persuadés que les sciences et les technologies vont contribuer à l'égalité. L'égalité les idéaux égalitaires. Donc loin de penser qu'on est en train de créer une humanité à deux vitesses, les humains augmentés et puis les chimpanzés du futur, hein, ils sont convaincus qu'au contraire, la divulgation des technologies, l'offre commerciale des technologies va en rabattre le prix de revient, et donc tout ça va devenir accessible à tout un chacun. Alors, ils prennent toujours comme exemple le décryptage du génome, hein, qui coûter des millions de dollars, je sais pas des millions, en tout cas des milliers de dollars il y a quelques années, et qui maintenant est vendu à 600 euros sur Internet. Bon, donc ils sont persuadés donc qu'il y a quelque chose comme une égalité, une égalisation des conditions, comme aurait dit Tocqueville, grâce aux sciences et aux techniques. Et donc de ce point de vue-là, eux, ils sont plutôt dans une idéologie du love clareur, enfin du progrès. Plus que les Madame Natacha Mohr, la femme de Max meurt, hein, qui elle est une brutale. Hein. On est dans une société comme on est dans un avion, lorsqu'il y a une dépressurisation, hein, le masque tombe, c'est pour vous, c'est pas pour le voisin. Hein. Si jamais vous en sortez bien, vous vous occuperez peut-être du voisin, même si c'est votre enfant, enfin, surtout si c'est votre enfant. Mais en tout cas, c'est chacun pour soi, chacun doit tirer ce qu'il peut des technologies, et bon, les retombées pourront servir au moins bien lotis, mais c'est pas obligé.
Alors, on va prendre de nouveau trois questions, mais, et vous choisirez éventuellement. Allez-y, oui. Attends, vous êtes deux l'un derrière l'autre, c'est difficile pour moi de... Donc d'abord, celui qui est le plus loin, oui, si vous voulez bien.
Je suis assez d'accord avec vous, monsieur. L'immortalité, la dématérialisation, ce sont des effets d'annonce incontestables. L'immortalité, c'est au fond le nom donné à l'innovation suprême, comme je le disais tout à l'heure, l'innovation censée être la plus attractive pour les humains que nous sommes. Hein, puisque nous sommes censés, en tant qu'humains, vouloir précisément, enfin si on en croit les transhumanistes, vouloir absolument être pérennisés. Cela étant, j'ai effectivement écrit un livre avec Laurent Alexandre, dont vous savez qu'il est l'homme qui répète à qui mieux que l'homme ou la femme qui vivra 1000 ans est déjà parmi nous, hein, donc... Chacun regarde son voisin en se disant pourvu que ça soit pas lui, que ça soit moi. Bon, et il a une explication imparable pour le dire. Hein. Il dit, écoutez, regardez quelqu'un, un nourrisson aujourd'hui qui aura 100 ans, il peut espérer facilement 100 ans en 2117, c'est ça. Il aura connu quand même sur 100 ans tous les éléments de progrès considérables en biologie, en physique, en nano, en biologie de synthèse, etc. Et donc il aura sans doute bénéficié de tous les éléments de découverte sur 100 ans. Comment voulez-vous qu'il ne puisse pas espérer avoir une longévité sinon illimitée, en tout cas, une longévité qui le découragera sans doute de compter ses anniversaires. Hein. Une façon de d'immortaliser les choses, c'est de ne plus savoir exactement où on en est. Mais enfin, cela dit, je vous l'accorde. Ce qui m'a, moi, surtout vraiment bousculé, hein, je dois le dire, ces 4 ou 5 dernières années, c'est la part qu'ont pris les grands médias à répercuter ce slogan de Calico. Calico, vous savez, c'est cette société créée par Google, hein, qui s'est donnée comme objectif de tuer la mort. Hein, tuer la mort. Hein, bon, ça, en réalité, c'était pas leur slogan au départ, mais c'est le Times qui avait titré son reportage sur Calico en disant Calico va tuer la mort, hein, et Google a repris complètement à son compte l'objectif, hein, puisque c'est quand même un objectif tentant. Donc on est dans du marketing, mais on est en même temps devant le symptôme d'une vulnérabilité mentale de nos contemporains, hein, qui lisent aujourd'hui les progrès scientifiques biotechnologiques annoncés comme allant dans ce sens-là. Hein, et c'est vrai que quand vous expliquez aux gens que dans l'avenir, on pourra peut-être avoir des nanorobots dans nos anatomies, des nanorobots qui seront capables de détecter les tumeurs en formation et de les éradiquer, qui permettront de réparer l'ADN sur le moment, quand on aura le moyen de changer les organes à la demande, quand on aura le moyen de mettre le contenu du cerveau à l'abri sur des puces de silicium ou dans le cyberespace, les gens qui reçoivent tout ça comme ça d'un coup, ils disent oui, il n'y a pas de fumée sans feu, ça va sûrement se faire tout ça. Donc c'est difficile. quand le marketing, comme ça, touche des vulnérabilités et abonde dans des croyances. Alors, la même chose pour la dématérialisation. J'ai eu à plusieurs reprises ces derniers temps à parler des technologies du virtuel dans le monde d'entreprises, des entreprises qui travaillent dans le virtuel. Alors évidemment, cette dématérialisation, elle ne sera pas intégrale, mais quand les gens vous expliquent que ce qu'on est en train de mettre en place pour réaliser de la multisensorialité qui permettront à des casques visioscopiques et à des écouteurs, etc., de vous immerger dans un monde de la simulation et de l'augmentation, puisque si vous êtes dans la simulation et dans la modélisation, vous pouvez augmenter les réalités. Il y a des gens qui s'installent dans l'idée que à moyen terme, ils seront obligés de déménager sur Mars ou sur Vénus ou je ne sais sur quelle planète, hein, et ils conserveront le bénéfice du monde de la Terre par voie de virtualité. Les gens pensent que là, les technologues sont en train de nous préparer ce monde-là où il n'y aura plus de différence entre la réalité et le virtuel. Sauf que la réalité, ça résiste, alors que le virtuel, ça résiste pas. On est dans... ça alimente des fantasmes. On est effectivement dans les effets d'annonce, mais je me demande aujourd'hui, mais ça revient au nouvel Irénée qu'il va falloir solliciter, qui va aujourd'hui être capable de reformuler un principe de réalité, alors même qu'on expulse ce principe de réalité, pas forcément au nom du principe de plaisir, mais en tout cas, ce principe de réalité, on ne sait plus lui donner figuration, qu'on fasse ce que je disais à propos de l'évacuation de l'altérité structurante, qui était jusqu'à présent notre élément de croissance. Alors le développement de la transcendance, En vous écoutant, je me suis dit qu'il y avait sans doute quelques raisons pour que j'ai été également invité trois ou quatre fois par les bouddhistes, notamment. Notamment à Bordeaux, où il y a un grand centre bouddhiste, un grand rassemblement de bouddhistes, et ils sont bougrement intéressés par les neurosciences. C'est eux qui colle sur la tête de Mathieu Ricard des casques avec plein de petits boutons, etc. Donc, qui essaie de voir exactement ce que représente la méditation, comment est-ce qu'on obtient un électroencéphalogramme plat dans certaines situations, etc. Donc, je dirais que c'est sans doute pas par hasard que ce soit des bouddhistes qui investissent sur le terrain pratique ces technologies que génèrent les NBIC. Il y a quantité de raisons pour lesquelles ils ne sont pas dans la transcendance. Il n'y a pas de... je dis peut-être des bêtises, mais il n'y a pas de perception de la transcendance chez les bouddhistes. C'est plutôt des pratiques d'immanence qui cherchent à obtenir des effets d'arrachement, mais uniquement sur la base de comportements d'ascèse et d'un travail sur soi, sur le corps. Mais les NBIC sont accueillis de manière complètement décomplexée par les bouddhistes, parce que d'abord ils sont un petit peu animistes et ils se moquent bien de la différence entre l'humain et le non-humain, entre la matière et l'inanimé. Ils se réjouissent de voir que les nanosciences permettent de pénétrer à un niveau où il n'y a plus de différence entre la vie et la mort. Tout ça leur parle, tout ça fait écho précisément dans les canons de leur spiritualité. Donc je dirais que c'est sans doute de leur côté que je verrai vraiment une espèce de prolongation, de chambre d'écho. Mais ça, je l'avais déjà perçu il y a plus de 25 ans, lorsque j'avais commencé ma carrière à l'Université de technologie de Compiègne, et où j'avais découvert avec stupéfaction que bon nombre de mes collègues spécialistes de génie informatique étaient bouddhistes, s'étaient convertis au bouddhisme. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi, puis j'ai travaillé pendant des années avec Francisco Varela, biologiste bien connu, spécialiste de l'inaction. On a partagé pendant 14 ans le même bureau, je le voyais tout le temps en train de méditer, et j'ai compris aussi pourquoi il pouvait, avec sa représentation de la biologie, sa représentation du cerveau, trouver un écho complet dans les préceptes bouddhistes. Donc il y a beaucoup de choses là, mais j'aimerais bien, moi, que du côté des catholiques, des protestants, il y ait des travaux qui essaient de comprendre quel type de transcendance peut s'accommoder de cette conception quand même apparemment très très désenchantée ou désenchantresse d'un monde complètement subjugué par les mécanismes, les automatismes, les algorithmes. Il y a quelque chose à faire. Bon, le mur, j'ai répondu. Et puis, alors là, votre question, elle est très intéressante parce que elle touche la question de savoir à partir de quel moment un humain est-il augmenté. Parce que, bon, il faut se déprendre de la réponse un peu idiote qu'on donne en disant « je porte des lunettes, donc je suis augmenté, j'ai une prothèse de hanche, donc je suis augmenté, j'ai un sonotone, je suis augmenté ». Mais non, vous êtes réparé, je suis réparé, mais je ne suis pas augmenté. Alors ça commence quand, l'augmentation ? Ça commence lorsque les technologies nous permettent d'accéder à des performances et à des compétences qui ne sont pas celles que la nature, entre guillemets, a prévues pour nous. Je vais prendre un exemple simple. Si grâce, vous avez tous entendu parler de CRISPR-Cas9, donc ce ciseau moléculaire qui permettrait de faire du copier-coller avec les génomes. Si, comme certains transhumanistes se sont mis en tête, on joue avec ça, que par exemple on se dit c'est quand même formidable la manière dont les chauves-souris se déplacent, les colocations, c'est un truc incroyable. Ou prenez la sensibilité aux ondes électriques du requin, ça c'est quand même bien. Et si je me le mettais dans ma gamète, c'est facile. On identifie dans le génome du requin ou de la chauve-souris le gène, la portion de gène apparemment correspondante à cette compétence-là, coupée. Et puis on colle ça dans un embryon ou dans le génome d'un embryon. Et puis voilà, on développe un humain qui sera bel et bien augmenté, puisqu'il aura importé une compétence qui n'était pas celle des humains. Donc c'est là où je vois qu'on se paiera pas de mots en parlant d'humain augmenté quand on en sera là. Alors on n'en est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des mesures de transition entre les deux. Je crois que les neurosciences peuvent modifier nos humeurs, artefactuellement modifier nos humeurs. Et de ce point de vue-là, il y a des stratégies d'augmentation qui existent d'ores et déjà et qui font la part entre le purement humain et quelque chose qui n'est pas encore du post-humain, qui pourrait l'être.
Voilà, je crois qu'il est vraiment temps de conclure cette soirée, mais vos questions ont bien montré qu'à quel point vous avez été passionné par cette conférence, et j'en remercie très vivement Monsieur Beignet, et donc merci encore d'avoir pris le temps de venir, et pour ceux qui le veulent bien, vous pouvez éventuellement contribuer aux frais de cette soirée, où vous trouvez un tronc à la fin.
Merci.
Vous voyez bien que ça a bien marché, parce qu'il m'arrive certaines fois de désespérément attendre des questions.
Ah bon ?
Ah oui, ou alors d'avoir des questions complètement déplacées.
Ah oui.
C'est rare quand même. C'est rare, mais là, c'était passionnant. Absolument passionnant. Donc vous venez m'en dîner avec nous, bien sûr.
Avec plaisir. Avec plaisir. Oui, nous mettons en forme, c'est bon pour le
reposer. Tu viens dîner avec nous, là, tout de suite, François.
Je vais te faire attention. Je vais te faire attention.
Bien sûr, pour lui, il faut le sortir du secteur. Oui, je suis d'accord.
Je pense que demain, les personnes qui vont se sentir pour nous, c'est la promesse.
Oui, oui, en tout cas, merci.
Demain, les personnes
qui vont. Il y a beaucoup de choses que.
Ça, c'est quand même
la semaine.
Pour la Grèce.